avec Béatrice Beauté au Salon du Livre de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes sur le stand des éditions Matago pour discuter de votre diptyque Rose Aimée. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter l'ouvrage ?
C'est un roman d'aventure et d'amour qui se passe au XIXe siècle, sous le Second Empire. C'est le début du règne de Napoléon III. L'histoire démarre en Californie, plus exactement, au temps de la ruée vers l'or. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français en Californie à cette époque. Et il se trouve qu'un jeune homme, un marin de Cap Hornier, s'est trouvé par hasard en Californie. Et il y est resté. Il a fait une petite fortune un peu, pas franchement malhonnête, mais pas franchement bien claire non plus. Enfin bon, et quelqu'un lui sauve la vie. Et ce quelqu'un, c'est un Français qui lui dit « Moi, j'ai quitté la France pour des raisons politiques. Si un jour, tu as l'occasion d'y retourner, parce que le jeune marin, Martial Belleroche, a proposé de payer sa dette de vie, si tu as l'occasion d'y retourner, va voir dans tel cabaret, à la Villette, dans la rue d'Allemagne. Il y a là une fille, elle chante des complaintes et des goualantes, elle danse la polka. Méfie-toi, mais enfin bon, elle possède, je lui ai remis un manuscrit qui est très précieux pour moi, parce que c'est un journaliste, le gars. J'aimerais bien le récupérer. Méfie-toi de la fille, quand même. » Bon, ils sont tous les deux un petit peu noyés dans les brumes de l'alcool après une échauffourée grave avec des chercheurs d'or. Et le marin va accepter l'enjeu. Il rentre en France. Il se rend à la Villette, au cabaret des Trois Anges Blancs, où chante une fille qui s'appelle Fifi Bout de Ficelle. Elle est charmante, elle est très jolie, elle chante très bien. Elle chante des chansons très émouvantes et elle porte malheur. Figurez-vous que ces messieurs qui la serrent d'un peu trop près dans ce cabaret minable, qui voudraient bien profiter d'elle, sa patronne même qui voudrait la prostituer, parce que chanter, danser, c'est bien joli, mais enfin, ma cocotte, il va falloir que tu passes à plus sérieux maintenant. Et Fifi Bout de Ficelle dit, je ne peux pas, je porte malheur. Les hommes meurent autour de moi s'ils essaient des privautés sur mon corps. Elles se sont totalement protégées à cause de ça. Et voilà le marin, Martial Belleroche, qui arrive au cabaret des Trois Anges Blancs, qui la voit. Lui, il danse jamais la polka. Il a un visage de marbre, il n'essaye pas du tout de la séduire. Il est fasciné par cette fille et elle est exaspérée par ce spectateur qui est là, au pied de l'estrade, qui la regarde sans jamais rien dire, avec ce visage inexpressif. Et ça l'agace beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il va se trouver un moment où, à la fin d'une soirée de danse et de chant, la patronne de Fifi Bout de Ficelle, ça n'est pas son vrai nom, son vrai prénom c'est Rose Aimée, la patronne paye une petite bande de mauvais garçons en disant « Vous allez la violer un bon coup, et vous allez voir, elle sera bien obligée après de faire ce qu'on veut. » Seulement, elle avait oublié quelque chose, c'est que la fille porte malheur. Et elle va trouver de l'aide. Le marin, en goguette, va lui prêter main forte. Et à partir de ce moment-là, va se nouer une relation extrêmement difficile entre nos deux héros, Martial le marin et Rose Aimée, la fille qui chante, qui danse et qui porte malheur. Parce que elle est revêche un petit peu, elle est murée dans sa solitude, dans son sentiment de porter malheur. Lui, c'est un joyeux de riz, un bon garçon. Il voudrait bien la décoincer un petit peu, mais il se méfie aussi, parce qu'il risque gros s'il arrive à la séduire. Est-ce qu'elle ne va pas lui porter malheur à lui aussi? Et donc, cette histoire, c'est l'histoire de Martial et de Rose Aimée, à qui il va arriver beaucoup d'aventures. Hein. C'est un roman feuilleton, quand même. Il y a des épisodes, il y a des rebondissements. Comment vont-ils se tirer tous les deux de cette malédiction qui pèse sur la tête de Rose Aimée? Et vont-ils réussir? Et d'abord, vont-ils trouver le fameux manuscrit que l'imprimeur attend là-bas pendant ce temps-là, loin de là, à San Francisco? Voilà, vous le saurez en lisant le roman.
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette histoire-là? Est-ce que vous vouliez retrouver l'ambiance de l'Amérique de cette époque?
C'est plutôt l'ambiance de mon quartier, car figurez-vous, moi j'habite le quartier, j'habite le 19e, dans la région, je ne vais pas préciser mon adresse exacte, mais dans la zone dans laquelle chante, danse Rose Aimée, dans laquelle elle habite, tous les chemins qu'elle parcourt, ont énormément changé, évidemment, en un siècle et demi. Ce quartier que je connais depuis toujours, puisque j'y suis né, figurez-vous, eh bien, j'ai retrouvé des anciens documents, bien sûr, des photos d'archives, des choses comme ça. Je me dis, oh, et dire que c'était comme ça avant, oh, et dire qu'il y avait ça, des cabarets, des trucs, des mauvais lieux, ça m'a fasciné, bien sûr. Et donc, je commence à avoir dans la tête de reconstituer la vie du quartier avant que ce soit ce qu'il est là maintenant, un quartier assez populaire encore, mais bien plus correct et policé qu'à l'époque. Je lis à peu près à cette époque Les Mystères de Paris, ça ressemble. J'ai été très inspiré par Les Mystères de Paris, par le film French Cancan de Renoir. Tout ça, ça a joué dans ma tête. Et en même temps, j'avais lu des livres extraordinaires sur la ruée vers l'or. Ça vient tout seul, je ne saurais pas expliquer le processus de comment fonctionne l'imaginaire, mais petit à petit, des éléments ont commencé à se mettre en place, tout seul, malgré moi. J'avais lu que sous Napoléon III, par exemple, les opposants politiques, on va pas les mettre en prison, tous ceux qui ont fait le coup de main pendant les révolutions de 48, Louis-Napoléon Bonaparte, organise une loterie dont tous les lots gagnants sont un aller simple pour la Californie, la Terre de l'Or. Et la loterie est truquée, et on va faire partir tous les opposants de cette façon. J'ai été fasciné par cette anecdote, mais j'ai été fasciné par beaucoup d'autres anecdotes sur la, oui justement, sur la ruée vers l'or. Et de fil en aiguille, le roman s'est construit presque tout seul. Je ne savais pas ce que j'allais y mettre. C'est très bizarre parce que quand j'écris, je ne fais pas de plan. J'ai démarré par l'histoire de Martial et l'histoire de Rosemée. Je la voyais chanter, danser dans ce cabaret pas très loin de chez moi. Je voyais l'ambiance. Vraiment, j'avais l'impression d'y être. J'avais l'impression d'avoir remonté un siècle et demi en arrière. Et voilà, je la voyais chanter, danser, puis rentrer le soir avec sa petite lanterne, toute seule, à 4h du matin, dans un autre quartier parmi les terrains vagues. Et là où elle habite, c'est un couvent qui date de la Renaissance, mais c'est un couvent hanté. Pendant la Révolution, c'est-à-dire 60 ans plus tôt, toutes les religieuses ont été décapitées, et elles hantent le couvent. Et voilà que Rosemée vit là-dedans, un peu avec la trouille au ventre, mais enfin, elle n'a nulle part. Elle n'a aucun endroit où elle est. Elle n'a pas de vrais alliés, pas de vrais amis. Elle n'a plus de famille. C'est une fille de bonne famille qui a chuté par les circonstances de la vie. Là encore, vous saurez lesquelles si vous avez envie de lire cet ouvrage. Et terrorisée, elle vit parmi les nonnes fantômes, mais au moins elle se sent en sécurité là-dedans. Ce qui lui fait peur, c'est la vraie vie, c'est les vrais hommes. C'est pour ça qu'elle leur porte malheur, parce que elle n'est pas rassurée avec eux. Donc sa froideur, j'allais dire, c'est sa froideur qui les tue, plus qu'une malédiction occulte.
Vous nous disiez que vous ne saviez pas pourquoi elle portait malheur, mais j'ai envie de dire, finalement, c'est peut-être pas si important que ça de savoir pourquoi. Cependant, elle était obligée d'avoir ce petit côté sombre. Ça la protège, ça permet de la garder fragile, en fait.
Ça permet de la garder pure, je crois. J'avais du mal à concevoir une héroïne qui serait quand même tombée dans la prostitution. Je sais bien qu'une fille à cette époque, si elle n'a pas d'argent, pas de famille, personne pour l'aider, il n'y a pas 36 solutions pour elle. Elle devient, dans le meilleur des cas, une ouvrière ou une fille qui coud et qui brode, une couturière en chambre qui gagne 3 francs 6 sous, ou bien elle tombe rapidement dans la prostitution. Je ne voulais pas de ça pour mon héroïne. Je voulais qu'elle soit préservée de ce qui me semble être le malheur suprême pour une femme, vraiment. Et donc, je l'ai protégée comme ça. La protection vient de moi. Finalement, sa malédiction occulte, c'est moi qui la lui fournis. Et je ne sais pas comment elle fonctionne pour elle, et elle ne le sait pas non plus. C'est horrible ce que je vais dire, mais quelque part, un auteur, il est le dieu de ses personnages. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, j'ai décidé ça pour elle, je vais la protéger. Et je la protège par cette malédiction, elle porte malheur. Les gars qui lui mettent la main, qui essayent de soulever ses jupons, de l'embrasser malgré elle, de faire glisser les bretelles de sa robe pour dégager son décolleté, ceux-là, ils vont y passer le soir même. Il n'y a pas de solution de secours. Ils meurent tous, l'un après l'autre. En un mois, elle a fait sa réputation. C'est-à-dire, il y a eu 5 ou 6 accidents comme ça. En un mois, elle est sauvée. Personne ne l'embête plus. Bon, voilà, je l'ai protégée. J'ai protégé mon héroïne parce que, évidemment, peut-être qu'on a tendance à s'identifier. C'est une fille qui se laisse pas aller, qui se laisse pas faire. Et malgré tout, elle a un charme certain, le fait de chanter, de danser. Quand elle chante et qu'elle danse, elle semble délivrée de tout le reste. Elle est pleine de pétulance, de joie de vivre. Ses auditeurs l'adorent, ils adorent danser avec elle. Elle danse la polka. À cette époque, il faut payer pour avoir une cavalière, parce qu'il n'y a pas assez de filles pour danser. Donc dans les cabarets, dans les lieux de danse et de plaisir, on paye une fille pour faire un tour de polka avec elle. La polka, c'est la danse à la mode, c'est une danse très facile à danser, ça se danse très facilement. Et tous les cavaliers, avec un petit frisson quand même de trouille, ils se disent, voilà, faut pas que je la serre de trop près, sinon, hein, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Mais enfin, quand même, il danse avec la fille qui porte malheur, c'est pas rien. Et donc, une légende se crée autour d'elle, et une fascination à la fois épouvantée et admirative se crée autour d'elle. Qui va arriver à introduire une faille dans ce bloc de glace, quelque part? Elle est glaciale, quoi, malgré sa belle apparence. C'est Martial Belleroche qui est tellement chaleureux qu'il va réussir je dirais pas par sa bonne humeur, c'est un brave garçon. Il s'attend pas à ce qu'il va trouver non plus à la Villette, hein. Il est un peu étonné de ce qui lui arrive. Et voilà, il va réussir. Enfin, il va réussir quelque chose maintenant pour le reste.
Vous disiez que vous n'aviez pas de plan, c'est prévu en 2 tomes. Est-ce qu'on peut penser que vos personnages, même si vous avez la main mise dessus, vous échappent un petit peu?
Oui, bien sûr. Alors, je vais vous dire, c'est prévu en 2 tomes parce que moi j'ai écrit un seul livre, mais il était très gros, ça faisait 1000 pages. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On le sort comme ça ou on le divise en deux? On le divise en deux, comme ça, Et ça tombait pile, alors là ça c'est le coup de peau de l'auteur qui fait pas exprès de faire ce qu'il fait, ça tombait pile à un moment de suspense, le suspense maximum se passe à ce moment-là. Je sais pas comment je fais, c'est vraiment magique quelque part. Et donc voilà, on a coupé là, on a fait tome 1, tome 2. Donc c'est la même histoire, c'est le même roman en deux parties. Mais mes personnages m'échappent, je dirais pas tout à fait ça. C'est leur tempérament qui les fait agir. Dans mon esprit, je vois tellement bien leur tempérament qu'il suffit de leur laisser la bride sur le coup. C'est eux qui agissent malgré l'auteur. L'auteur n'a plus qu'à écrire ce qui se passe sur l'écran de son imaginaire. C'est très mystérieux, j'adore ça en fait. En tant qu'auteur, j'aime bien mes personnages. Enfin, l'histoire qui se déroule devant moi, c'est comme au cinéma. J'ai mon petit cinéma personnel. Ça se passe souvent le soir, dans la nuit. Voilà. Bon, voilà. Et le lendemain matin, j'ai plus qu'à écrire le récit du film que j'ai vu dans ma nuit. C'est vraiment super agréable comme métier. Et je sais pas toujours ce qui va arriver ensuite. Mes personnages, jour après jour, bâtissent leur histoire. C'est pas toujours heureux, hein. Il va y avoir des drames dans la vie de tous les deux. Il va y avoir une très longue séparation, des très longs drames, des incompréhensions totales. Et pourtant, ils avancent parce que leur tempérament les fait avancer dans l'histoire. Comme dans une vraie vie, je pense. Enfin bon, là, je m'avance peut-être sur un sujet qui n'est pas forcément le nôtre à l'heure actuelle.
Vous travaillez justement dans quelles conditions? C'est systématiquement toute seule avec l'ordinateur? Est-ce qu'il y a un petit peu de musique? Est-ce que des fois c'est griffonné sur un bout de papier quand il y a une idée qui vient?
J'ai écrit cet ouvrage à une époque où j'avais beaucoup de travail par ailleurs. Chaque fois j'avais 10 minutes de liberté, toc toc toc, j'écrivais, je remplissais des pages, j'écris à l'ordinateur. Oui, je me disais, j'ai peut-être écrit quelques pages à la main, mais je crois que là tout a été écrit à l'ordinateur. J'ai eu des très longues époques de vide aussi, donc je l'ai abandonné et je l'ai repris. Et je pense qu'il y avait une maturation nécessaire. Et quand j'ai repris, ça y est, ça a marché. Et j'écris à l'ordinateur, j'écris très vite. Enfin, je veux dire, physiquement, quoi, j'ai une frappe rapide. Et j'aime beaucoup, il y a une partie du travail que j'aime beaucoup, c'est la partie documentaire. Je lis énormément, j'ai lu beaucoup sur les Caporniers, sur la vie des marins, sur la Californie, sur les cabarets et les mauvais lieux à Paris au 19e siècle, sur les costumes, sur tout ça. Du reste, on a fait un cahier documentaire à la fin de l'ouvrage, parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient passionnantes et qu'on ne peut pas mettre dans un livre, parce que sinon ça alourdit beaucoup le propos. On avait tellement de choses à dire que, poussé par l'éditeur, j'ai fait un cahier documentaire sur ne serait-ce que la monnaie à l'époque, sur la Villette à cette époque, sur les cabarets, j'ai trouvé des textes totalement ahurissants sur l'ambiance dans les cabarets. Il y avait une vieille bonne femme, enfin une patronne de cabaret qui engueulait ses clients en disant « Alors quoi, qu'est-ce que c'est que ces buveurs? Vous buvez presque rien, allez, saoulez-vous un grand coup !» Et les gens adoraient ça. Tout ça, je l'ai mis un petit peu dans l'intrigue. J'ai rajouté ces pages additionnelles, qui sont illustrées d'ailleurs, et qui donnent une petite idée de ce que j'avais dans la tête.
Vous nous décrivez un monde qui est quand même assez dur, en tout cas socialement. Et vous dites ça avec le sourire. Vous en avez fait une histoire très légère, du coup?
Je dirais que c'est une histoire légère, c'est une histoire d'amour et d'aventure. Alors évidemment, c'est le monde de Zola, hein. C'est contemporain de l'époque Zola. Mais Zola, je trouve ça vraiment très très dur. Il y a quand même eu des belles histoires qui sont passées à cette époque-là. Les histoires d'amour, ben, il faut espérer qu'il y en a à toutes les époques, sinon c'est à se tirer une balle dans la tête, c'est trop triste. Et quelquefois, le salut passe par l'amour, et quelquefois, l'amour passe par des voies inattendues. Voilà, mon point de vue sur l'histoire, sur ce roman, c'était surtout d'arriver à écrire une histoire d'amour réussie, en fin de compte. Malgré les tribulations, les difficultés sociales, morales, matérielles que connaissent les deux personnages principaux, il y a quand même la solution. Elle arrive à partir du moment où ils se livrent sans retenue l'un à l'autre. Lui, Martial, il était partant, avec une petite peur quand même, comme je l'ai dit. Mais Rosémée, il a fallu la délier de tout ce qui l'accable. Elle est accablée. Elle a eu une vie de jeune fille épouvantable, bien que dans une bonne famille. Ensuite, elle a été recluse chez une vieille dame qui l'utilise comme lectrice et dame de compagnie, mais qui lui dit « Ne sors pas, ne fais pas ça, ne fais pas de bêtises, ne te gâche pas, ne va pas flirter avec les garçons. Ce qui est important, c'est de te marier avec quelqu'un de bien. » Mais elle se trompe complètement aussi, il n'est pas question d'amour. Donc tous les personnages secondaires, pour moi, sont des personnages importants aussi. Cette vieille dame, l'oncle pervers qui essaye de la pervertir, elle, alors qu'elle a 13 ou 14 ans. Les prostituées qui travaillent tout autour d'elle, sa patronne. Un socialiste qui est un homme de bien, un carrier. Les fameuses carrières d'Amérique sont aussi dans ce quartier-là. Et il y a un carrier socialiste qui la prend sous son aile, qui est totalement un homme bénéfique pour elle. Donc tous ces personnages-là m'ont passionné. J'aime bien les décrire, j'aime bien imaginer leur vie. Je vis vraiment beaucoup dans mon imaginaire, oui.
vous estimez qu'il peut être lu à partir de quel âge?
Je dirais par les grands collégiens, au 4e, 5e, et jusqu'à l'âge adulte. Pour moi, au départ, c'était un livre pour adultes que j'ai voulu écrire. Je l'ai un petit peu adouci certains aspects, en particulier autour de la prostitution et des mauvais lieux. À partir de... Oui, enfin bon, quand même, il faut savoir que ça se passe dans des endroits pas recommandables, qu'il y a des assassinats, des choses comme ça. Mais bon, c'est la vie. Donc, je pense que des 4e, 5e peuvent en faire leur affaire. Ça fait quand même 2 tomes de 500 pages, c'est un gros truc. Mais bon, les jeunes, ça leur fait plus peur maintenant. Donc sinon, il y a des lecteurs adultes, j'ai déjà des lectrices qui sont des adultes et qui m'ont dit, bon alors, le 2e tome, quand est-ce qu'il paraît? Donc ça, pour un auteur, c'est extrêmement flatteur de se dire que les lecteurs attendent la suite.
2e tome au mois de mai, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. Au mois de mai, le livre était prêt. J'ai écrit le livre d'un seul tenant, mais l'éditeur l'a fait paraître à 2 périodes différentes. Mais c'est le même livre, donc j'ai pas attendu que le premier soit publié pour me mettre à écrire la suite. Tout était prêt au moment où j'ai mis le mot fin, c'était vraiment le mot fin.
Peut-être un petit mot sur votre autre actualité en tant qu'auteur?
Je suis une auteure... Également chez Casterman. J'ai une longue série chez Casterman qui s'appelle Le Grimoire au rubis. Il y a 9 tomes. Il y a 3 trilogies en fait. L'une se passe au Moyen-Âge, la 2e 3 siècles plus tard à la Renaissance, la 3e 3 siècles plus tard encore au 19e siècle. Le dernier avatar du Grimoire, c'est un 10e tome qui ne concerne pas le Grimoire au rubis, qui est un grimoire bénéfique, mais un grimoire maléfique, maudit, orné d'une pierre noire, qui signe le début de la sorcellerie diabolique au 15e siècle. Je voulais écrire sur le 15e siècle, sur une époque très difficile à vivre, entre la mort de Jeanne d'Arc et le début de la Renaissance. Il se passe une période d'une cinquantaine d'années pendant laquelle tout va changer. On va se mettre à croire au diable, non pas aux petites sorcelleries de fond de chaudron et de petites cuisines de sorcières, mais vraiment faire des pactes avec le diable, œuvrer pour attirer le malheur sur le monde. Ça commence vraiment au 15e siècle. C'est de ça que je suis partie. Et des grandes compagnies de mercenaires aussi qui vont ravager la France parce que la vie politique était très instable et on savait plus trop où on en était. Et je voulais travailler sur cette période. J'ai donc imaginé un grimoire maléfique qui est volé par un nécromancien qui va s'atteler à répandre 10 grands malheurs sur le monde. Il n'aura le temps d'en faire que 3, pendant que les héros, encore un garçon, une fille, courageux, déterminé et plein d'audace, vont se mettre en quatre pour l'empêcher d'agir et pour remettre ce grimoire maléfique à l'abri. À mon avis, c'est pour les plus jeunes, c'est pour des collégiens 6e, 5e, peut-être même des fins de primaire, des collégiens en général, mais le public visé est plus jeune tout de même.
Pour terminer nos interviews, cette année, on a une question qui est celle-ci. Si on vous permettait de collaborer avec un artiste ayant existé dans quelque domaine artistique que ce soit, qui serait cet artiste et quel serait le projet artistique?
C'est difficile à dire parce que je pense au cinéma. Mais les réalisateurs auxquels je pense sont encore vivants, je crois. Qui est-ce qui pourrait... Peut-être avec Renoir, justement, l'ambiance... Pour Rosemée, j'entends, hein. Cette ambiance de music hall, de café-concert, je m'y retrouve bien, en quelque sorte, je m'y retrouve bien. En tout cas, ce serait dans le cinéma. Je ne suis pas du tout sur le métier, mais je vois mes romans comme si c'était des films. Donc je me retrouve particulièrement dans ce moyen d'expression. J'adorerais travailler sur des scénarios, sur les scénarios de mes ouvrages, naturellement, mais les traduire sur écran, c'est comme si c'était fait. Dans ma tête, c'est comme si c'était fait. Ils existent déjà. Donc ce serait le cinéma, des grands réalisateurs de un peu de fresques d'aventure, peut-être des Américains plus que des Français, un peu le western. Quelque part, c'est une ambiance western qu'il y a dans cet ouvrage, et même dans mes livres moyenâgeux, médiévaux, à ambiance plus ancienne. Ah ouais, ce serait manifestement le cinéma. J'aime bien le dessin aussi, j'aimerais bien savoir dessiner, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est pas un axe de travail autour de mes livres. Vraiment, ce serait ça, oui.
Merci beaucoup.
Oh, merci, j'étais contente de bavarder avec vous.